Père Philippe Capel-Dumont, quand on vous pose la question aujourd'hui, Dieu existe-t-il encore? Qu'est-ce que vous répondez?
Alors, lorsqu'on pose la question ainsi, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle soit bien posée, mais elle est posée. Puisque quand on dit Dieu existe-t-il encore, cela veut dire qu'il pourrait avoir existé, n'existerait plus. En réalité, cette question est mal posée, puisqu'on laisse entendre que Dieu serait dans le temps, etc. Or, Dieu est au-delà de toutes nos conditions temporelles, humaines, cosmiques. Dieu.
Alors justement, comment est-ce qu'on a posé cette question?
Cette question est une provocation. C'est une provocation délibérée, une manière de dire, au fond, est-ce qu'il est encore possible de croire en Dieu aujourd'hui? Et à quelles conditions? La réponse est oui. La question étant de savoir, comme Einstein le disait, dites-moi d'abord de quel Dieu vous parlez, je vous dirai s'il existe. Et le problème étant de savoir que nous ne savons pas toujours de quel Dieu nous parlons. Alors, l'histoire de la philosophie depuis Aristote traite de la question de Dieu. Platon, Aristote, les Grecs, étaient des croyants, vénéraient le divin, sacrifiaient aux dieux. Et toute la tradition philosophique, on l'a oublié au XXe siècle en France et en Occident, est marquée par la question de Dieu. Descartes était croyant, et pas seulement saint Augustin et saint Thomas.
Donc la question de Dieu, elle s'est toujours posée dans un système de croyants?
La question de Dieu est omniprésente dans la tradition, non seulement théologique, mais philosophique. Et au XXe siècle, nous avons en quelque sorte biffé, oublié ce trait, et dans ce débat que nous avons vu, c'était une manière de dire stop, revenons à une question qui est à la fois ancienne et jeune, profonde, et qui est devenue, comme vous l'avez aperçu depuis quelques années, assez médiatique. Aujourd'hui, vous ne comptez plus le nombre d'ouvrages en France et en Europe qui portent pour intitulé Dieu, Dieu est-il connaissable, Dieu est-il raisonnable, peut-on, etc. Donc la question de Dieu est devenue en réalité une question forte. Pourquoi ? Parce que nous sommes à un tournant de la vie de l'Occident et autres où on se repose la question des fondements des choses. Nous ne croyons plus au progrès mécanique. La Première Guerre mondiale et Auschwitz ont brisé l'illusion d'un progrès nécessaire. Donc nous avons besoin de nous reposer à nouveau frais la question de savoir sur quoi repose notre existence, les significations, notre monde, notre avenir. Et la question de Dieu est inévitable de ce point de vue. Je pense pour ma part que la question de Dieu n'est pas une question réservée à certains moments de l'existence, par exemple mystique ou religieuse, mais bien sûr qu'elle appartient. Mais c'est une question qui est liée à l'habitation humaine du monde. Dès qu'on est dans le monde, dès qu'un enfant se pose la question du pourquoi, l'enfant est très métaphysicien, se pose toujours la question. Et donc la question de Dieu intervient immédiatement, presque inévitablement, lorsque nous nous posons la question de savoir mais où allons-nous, d'où venons-nous et que devons-nous faire? Et biffer cette question, c'est se mentir à soi-même. Alors, quelle que soit la réponse que les philosophes donnent à cette question, ils ne peuvent pas la manquer. Donc, je ne peux que me réjouir de ce retour presque intempestif de Dieu aujourd'hui, mais la question de Dieu est inactuelle, donc elle traverse tous les âges, donc elle est actuelle aussi. Encore une fois, le Dieu chrétien ne peut pas être assimilé à d'autres dieux. Quelquefois, nous faisons des confusions très regrettables, considérant qu'après tout, l'essentiel est de croire en Dieu. Non, Satan dit « toi, tu existes », donc il ne suffit pas de dire que Dieu existe. Encore faut-il l'aimer et savoir à qui on a affaire. Le Führer allemand nazi Hitler avait sur les ceintures et Gott mit uns, Dieu avec nous. Donc il ne suffit pas simplement de dire Dieu, il faut encore savoir de quel Dieu on parle. Et pour nous, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de l'Alliance qui s'est révélé dans le peuple juif et qui est accompli dans la personne du Christ et qui n'a pas d'autre mot à dire. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance et qui meurt pour cela.
Et justement, vous dites on doit savoir en quel Dieu on croit. Est-ce que vous ne croyez pas que derrière le mot même de Dieu, le mot de Dieu est piégé?
Si, bien sûr, comme tous les mots. D'ailleurs, le mot « Deus », c'est un mot qui est employé notamment par les philosophes des Lumières.
Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette question?
Eh bien, les chrétiens sont dépositaires d'un message totalement unique, c'est que Dieu n'est jamais seul. Et alors, quand on dit un seul Dieu, il faut savoir que l'on dit « oui, je crois en un seul Dieu ». Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas aux idoles ou aux autres dieux. C'est cela que veut dire « credo in unum Deum », je crois en un seul Dieu. Mais le Dieu n'est pas seul, il est trinitaire. Et si nous confessons que Dieu est amour, alors il faut être conséquent, Dieu n'est jamais seul, n'a jamais été seul. Il est trinité, il est Fils et l'Esprit. Donc ceci ne se dit que dans la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, c'est sa force intellectuelle, c'est sa force spirituelle. N'ayons pas peur de le dire, même modestement, sans arrogance, c'est sa force de dire à un Dieu qui, étant amour, ne peut pas être seul. Dans ces conditions, ce Dieu chrétien n'est pas assimilable aux autres dieux. Ce qui est beaucoup plus fort, s'il fallait trouver une alternative au mot Dieu, c'est le mot Père. Parce que précisément, Jésus s'adresse à son Père, Abba Père. Mais vous aurez observé que dans le credo que les chrétiens récitent chaque dimanche à la messe, ils ne disent pas « je crois en Dieu Tout-Puissant », mais en Dieu le Père Tout-Puissant. Et ceci est absolument décisif, c'est-à-dire que nous croyons en Dieu le Père. Et le Père ne donne pas une pierre à son enfant qui lui demande du pain. Ne donne pas n'importe quoi à son enfant qui donne du poisson. Autrement dit, il y a une puissance de la paternité et qui veut que voir son enfant grandir et non pas lui imposer arbitrairement des ordres de maître à esclave. Donc voilà le problème que nous avons à tenir. C'est un Dieu père dont la puissance de paternité se manifeste très fort dans le récit de Luc de l'enfant prodigue, par exemple. On peut faire ce que l'on veut, on peut aller se balader, revenir à droite. Le Père nous attend et il ne juge pas.
Père Philippe Capel-Dumont, comment est-ce que cette paternité de Dieu, comment est-ce qu'elle s'articule ?
J'ai écrit plusieurs livres d'ailleurs qui portent le nom Dieu. Dieu et la raison, Dieu existe-t-il encore ? Dieu en tant que Dieu, très bientôt, qui va paraître dans quelques mois.
Comment vous dites ?
Dieu en tant que Dieu, c'est-à-dire il faut parler de Dieu en tant que Dieu. C'est une question d'ailleurs que Platon pose dans un de ses récits où il met en scène Socrate et auquel il fait dire, mais comment parler correctement de Dieu en tant qu'il est Dieu ? Et donc il répond, il faut parler de Dieu justement en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire bon, c'est une vieille question philosophique. Alors le christianisme répond, il répond non, Dieu n'est Dieu qu'en tant qu'il est amour et donne sa vie, voilà qui est Dieu en tant que Dieu, c'est voici l'homme sur la croix, c'est voilà le Dieu que nous confessons, qui est tout puissant mais qui au titre de cette toute puissance se rend faible, donc il n'est pas impuissant mais tout puissant. Alors une des choses qui me paraît très importante dans la question que vous posez à l'instant, c'est précisément celle-ci, c'est que nous avons quelques difficultés à tenir, et c'est un problème constant, devant un dilemme irrésolu, qui est celui de savoir comment se fait-il que Dieu est tout-puissant et qu'il y a du mal et que nous n'en finissons pas et que moi-même j'ai prié pour que mon mari ne soit pas malade. Et nous sommes dans des situations quelquefois tragiques. De ce point de vue, comment se fait-il que Dieu s'est tué au moment de Auschwitz ? Nous posons une question dramatique en réalité. Pour ma part, je récuse l'idée que Dieu se serait absenté du monde et laisserait les hommes à leur propre destin sans aucune intervention de sa part. Donc il faut être conséquent. Y compris dans les choses les plus tragiques de notre existence, nous avons l'impression quelquefois que Dieu est absent. Mais nous omettons de revenir sur nous-mêmes et de nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire et de m'appeler à faire dans cette circonstance qui apparemment est silencieuse, mais peut-être pour que j'entende autrement sa parole. Et l'histoire des hommes est aussi celle où justement un apparent silence de Dieu est une parole révélée dans le secret des cœurs pour que les hommes se lèvent. Mais nous ne pouvons pas poser cette question sans nous demander en même temps comment ce Dieu dont je pense qu'il est absent, me lègue un message. Et donc l'histoire, c'est aussi l'histoire où justement Dieu suscite des cœurs nouveaux. Demande aux hommes de prendre en charge leur destin avec lui, en alliance avec lui. Comme Dieu ne peut rien faire sans nous, il nous demande de mobiliser toutes nos ressources en relation de prière avec lui. Et c'est dans cette alliance entre Dieu et l'homme que précisément le monde croit, du verbe croître, et croit aussi du verbe croire. Et donc, tant que nous n'avons pas compris que l'apparent silence de Dieu est en réalité la condition de la parole profonde de Dieu, alors là, nous n'aurons pas avancé. Nous sommes tous trop marqués par la parole médiatique. Le monde des médias nous invite continuellement à zapper, à aller très vite, à avoir une réponse immédiate, dans l'instant, à toutes nos questions. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Il prend son temps, et je vous en donne une preuve expérimentale. Lorsqu'il vient dans le monde pour parler aux hommes, il prend une trentaine d'années. Il passe par toutes les étapes de la vie psychologique et physique de l'humain et au bout de 30 ans seulement, ouvre la bouche publiquement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Dieu ne parle que dans le temps. Il nous demande les conditions de l'écoute. Et si nous n'avons pas réuni les conditions de l'écoute, nous ne pouvons pas l'entendre. Et je pense que, pour revenir donc très précisément à la question, sans avoir, je crois, oublié votre question, la question de Dieu, c'est précisément la question du lien entre ce que nous appelons sa puissance et en même temps le fait que nous avons toujours l'impression de son absence. Eh bien, si nous y réfléchissons un tout petit peu, lorsque nous disons que Dieu est absent, cela veut dire quelque part qu'il nous manque. Quelque chose nous manque. L'absence de Dieu est ressentie par les poètes. Rilke, Hölderlin parlaient de l'absence de Dieu comme un drame. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un peu comme je suis éloigné de mon père, je suis éloigné de ma mère, j'ai quitté, il me manque, mais du même coup, leur présence se signale autrement. Combien de jeunes ont fait, ou même d'adultes, ont fait l'expérience au moment de la disparition de leurs parents, d'un manque, et tout à coup d'être habité, justement, par ce qu'il manque. Comme si la disparition des yeux était la condition de l'habitation des cœurs. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Jésus disant « Il est bon pour vous que je m'en aille ». On ne médite pas assez cette phrase. Il est bon pour vous que je m'en aille. Très curieux. Il aurait pu dire, écoutez, je reste avec vous, je vous promets. Il le dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en même temps, il est bon pour vous que je m'en aille. Il faut tenir ces deux choses ensemble. Je suis avec vous et il est bon pour vous que je m'en aille. Et nous, notre responsabilité, elle naît dans cet espace-là où nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes renvoyés à nous-mêmes, à notre responsabilité.